Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci à tous d'être venus en cette matinée. Il fait déjà bien chaud sous ce Magic Mirror. Je pense que cet après-midi, ça va être très très intéressant en termes de débat. Donc vous avez bien fait de venir, hein, les meilleurs débats sont évidemment ce matin. On va parler des personnages aujourd'hui avec ce petit filigrane, avec cette question, créer des personnages, devenir écrivain. Donc derrière la création du personnage, il y a évidemment la fonction même de l'écrivain qui incarne une autre personne pour lui faire vivre des aventures. Et pour parler de tout ça, on a un plateau autour de nous. Je vais commencer avec Nadia Coste, qui est complètement à votre droite, voilà, qui fait très bien le salut du pape, qu'on connaît notamment en littérature jeunesse et pas que, avec le cycle des Fédélines, ou bien encore le livre Ascenseur pour le futur, le premier des élémentaires. Les élémentaires, et puis Papa de papier qui vient de sortir il y a quelques semaines en librairie. À ses côtés, Hélène Kushner. Hélène Kushner, vous la connaissez pour des romans comme À la pointe de l'épée, ou bien encore Thomas le Rimeur, chez Folio. Exactement. Regardez, hop là. Voilà, présentation. Il y a une petite option téléachat, hein, sur nos conférences ce matin. Hélène, dont la traductrice est Lena Rémy Kovac. Je l'ai bien dit, voilà, qui nous fait le plaisir et la gentillesse donc de pouvoir traduire les propos à Hélène et nous traduire ses propos. À ses côtés, Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, avec notamment romans dans la collection Bad Wolf, deux romans, Anastéry et Grishmer. Mais tu as aussi travaillé donc au niveau de la bande dessinée et aussi au niveau du cinéma, où tu as toi-même été un tout petit peu actrice. Donc tu as toi-même été un personnage, hein, d'une fiction. Et puis le garçon de l'équipe s'appelle Patrick Maxper, qu'on connaît bien aux Imaginales, hein, écrivain, auteur de bandes dessinées. On connaît tous Léo Conteur qui sont ici, mais il faut aussi lire Victor London, Les Mérovingiens, Oracle. Et puis il a fait un livre sur la comtesse Bathory, qui n'est pas non plus forcément le personnage le plus drôle, sympa et émouvant de l'histoire. Donc on verra comment est-ce qu'on incarne un monstre. Et j'ai une petite question un petit peu collégiale pour commencer. Est-ce que dans les histoires que vous imaginez les uns les autres, est-ce que ce sont les personnages en premier qui apparaissent, ou est-ce que c'est une thématique, un paysage, une situation? Qu'est-ce qui vous parle en premier? Alors, qui veut commencer? Nadia, t'en face, pas de chance.
Alors moi, de mon côté, ça va être plutôt les émotions qui vont venir en premier. Ça va être une situation où je vais ressentir une émotion particulière et je vais essayer de voir comment je pourrais la mettre dans un roman, comment je peux la grossir. Typiquement, je me lève le matin, il y a une araignée sur mon mur énorme dans ma salle de bain. Je vais avoir donc tout d'un coup une espèce de peur qui va monter. Ensuite, une espèce de calme en se disant, bon, je vais quand même lutter contre cette araignée. Je l'écrabouille. Après, je me brosse les dents en passant 2 minutes à regarder toutes les 5 minutes à l'endroit du mur au cas où elle revienne, on sait jamais, même si je l'ai déjà écrabouillée. Et du coup, je suis un peu comme ça parce que bon, ça va, mais. Et cette émotion-là, je me dis, c'est rien. Comment je la fais vivre à un personnage de façon vraiment beaucoup plus marquée? Est-ce que ça va être un personnage de 10 cm de haut qui se retrouve coincé dans une toile d'araignée avec une araignée géante qui arrive? Ou est-ce que c'est mon héroïne de 10 ans en vacances à la campagne chez ses cousines qui se retrouve coursée par des moustiques géants? Voilà, par exemple. Ou mutants. Enfin, voilà. Donc c'est un peu... et je vais me servir de ces émotions-là, de ces peurs, et, ou de ces plaisirs, ou de ces voilà, de bonheurs, des émotions en premier, avant de créer les personnages qui viendront pour savoir quel est le meilleur personnage pour faire vivre ces émotions, par exemple.
Parce que moi, une araignée sur un mur, c'est déjà un roman, quoi, hein, on n'a pas besoin de les grossir. Hélène, même question. Qu'est-ce qui prévaut chez vous? Situation, émotion, personnage?
Alors avec moi, c'est toujours les personnages. Donc, je suis bien contente d'être sur cette conférence. Je rencontre un personnage... Un personnage, et il m'intéresse, et je lui dis, qui êtes-vous, que faites-vous, quelle est votre histoire, et puis je le suis.
Isabelle?
Moi, c'est un peu pareil. Je pense que là, quasiment toutes mes idées de livres de fiction en BD ou en roman ont commencé par une idée de personnage qui s'est... J'aurais pas trop... d'écrire le processus parce que ça s'impose un peu instinctivement. Et je travaille énormément mes personnages en amont, un peu acteur studio, avant d'écrire. Mais c'est toujours une idée de personnage et l'idée d'histoire qui collerait à ce personnage va s'imposer d'elle-même, et même le genre du livre derrière, parce qu'en roman j'ai écrit qu'en fantasy, mais en bande dessinée j'écris dans des genres assez variés, et le genre va même s'imposer en fonction des thématiques qui ont découlé du personnage. D'accord. Mais tout par deux, quasi systématiquement.
Et toi, Patrick?
Moi, je suis désolé, du coup ça va pas être très original après les réponses qui viennent d'être formulées, mais c'est également les personnages. Avant tout, un personnage qui... le personnage et la période aussi, la période temporelle. La plupart de mes récits se situant sur Terre, puisque bon, je bosse plutôt dans ce qu'on appelle la fantasy historique. Mais juste après les persos, la période, mais avant tout les personnages. Pour rebondir sur ce que disait Nadia tout à l'heure, par exemple, une fois dans la trilogie des héritiers de l'aube, j'ai créé un personnage d'apparence humaine qui était à l'origine une tarentule. Donc du coup, beaucoup moins facile à écrabouiller. Hein, mais
un personnage, ça se rencontre ou ça se construit quand on est auteur? Je sais qu'il y a des auteurs sur des interviews qui disent qu'ils ont des personnages qui leur parlent quasiment. Quelle est la part donc de Démiurge chez vous par rapport à ces personnages-là? Qui veut répondre?
Ouais, moi, en tout cas, tous mes personnages me parlent, je confirme. Et de plus en plus au fil du récit. Ils finissent par m'influencer. Bon, c'est vrai que la drogue aide beaucoup, hein. Ah, mais de qualité toujours, hein. Il ne faut pas acheter n'importe quoi à n'importe qui, nous sommes d'accord.
Alors moi, mes personnages ne me parlent pas. Des fois, j'entends des collègues auteurs qui me disent « j'ai dû changer ma fin parce que le personnage ne voulait pas » ou des choses comme ça. Moi, non, je structure beaucoup à l'avance. Du coup, le personnage fait ce que je lui ai dit. J'ai fait pas mal de mises en scène de théâtre en parallèle de mes débuts d'écriture, et j'ai arrêté parce que mes comédiens obéissaient beaucoup moins bien que mes personnages, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus... on arrive mieux à ses fins avec les personnages qui vont exactement où on veut. Après, ça n'empêche pas des fois de prendre des chemins de traverse parce que dans l'écriture on trouve d'autres idées, mais non, moi j'ai pas de personnage qui me parle. Par contre, effectivement, il y a une question de se mettre à la place du personnage et de trouver de pas lui faire faire n'importe quoi si c'est pas dans ce qu'on a paramétré au départ sur le caractère du personnage, c'est qu'il y a une erreur.
Et il est beaucoup plus facile de tuer un personnage qu'un comédien en plus, et puis ça coûte moins cher,
ouais.
Hein,
et aux yeux de la justice. C'est beaucoup plus jubilatoire, enfin personnellement je...
Mais après, tu as plus de temps pour écrire normalement.
Moi, alors je ne sais pas si le terme, ça va être vraiment les personnages me parlent, je ne le ressens pas forcément comme ça, mais oui, effectivement, je me laisse guider par mes personnages. En fait, je ne commence pas à écrire tant que je ne connais pas très bien mes personnages. Et de là, donc j'essaie quand même, à la base, j'avais une écriture assez instinctive et peut-être un peu trop instinctive, donc j'essaie quand même de m'imposer une certaine structure, mais en me donnant mes scènes clés, mes scènes pivots. Enfin, je savais toujours d'où je partais et où j'allais. Maintenant, je me donne un petit peu plus de scènes pivots que je ne vais peut-être pas forcément suivre à la lettre, mais qui vont quand même m'aider à me structurer. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je connais très très bien mon personnage, les scènes vont s'imposer. Il va m'imposer les scènes suivantes parce que il va réagir de telle ou telle façon et des façons que j'avais pas forcément anticipées. Et d'où l'importance de les travailler. Enfin, après, ça dépend quel style d'écriture vous intéresse, quel style narratif. Mais dans le cas de mon style narratif, qui est très axé sur les personnages, c'est important, à mon sens, de les connaître bien avant, justement, pour pouvoir avoir cette espèce de fausse improvisation. C'est pas vraiment de l'improvisation, parce que les faux personnages, vous les avez travaillés avant. Mais du coup, vous pouvez un peu désintellectualiser le processus d'écriture en suivant tout simplement la logique des personnages en les incarnant.
Hélène ?
Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec vous. Pour moi, c'est une collaboration avec les personnages. Et je ne sais pas qu'on parle avec eux, sauf pour être un peu comique au milieu de la nuit. Mais en fait, vraiment, je les suis. Je commence à écrire et usually, je comprends ce qu'ils vont faire, mais parfois ils disent quelque chose ou ils font quelque chose en écrivant, et je dis bon, mais ça c'est quelque chose de très de différent. Il y a aussi les personnages mineurs qui deviennent de plus en plus grands, et ça aussi c'est quelque chose de naturel, je ne peux pas trouver les mots à 7h du matin en français, même en anglais. All right, okay. It's an organic, organique, it's an organic process of finding things out, and I completely agree with you that it is the logic of the character that ultimately makes the story. Not for everybody, everybody has a different process, but the not just the logic of the character, but human emotional logic, to me, makes the difference, honestly, between a good fantasy novel and a bad fantasy novel. We have enough to contend with in fantasy trying to make things feel real to people. I think if your people are not real, unless you're writing in a genuinely mannered and heroic vein, you really must follow the emotional logic of human beings. Bonne chance.
Ouais. Donc elle dit qu'avec le rien que d'écrire dans le domaine de la fantasy, vous avez déjà le problème de ok, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire dedans, et que du coup suivre une logique émotionnelle de personnage, c'est un peu le fil qui vous attache à cette différence. Oui, si, c'est paradoxal, mais et qui vous aide à suivre les personnages, mais en même temps il y a cette évolution. Donc comme vous disiez, avec le, il faut que ce soit logique, il faut que ça suive plus ou moins la personnalité du personnage et cette idée que vous avez d'elle ou de lui. Mais en même temps, des fois, ils font des choses ou ils disent des choses et ça la surprend, mais elle continue de dire « Ah ok, bon, bah, ça change un petit peu. » Mais il y a toujours cette différence entre voilà, le réel, l'imaginaire, et ça fonctionne aussi pour le personnage.
Ce n'est pas une recette pour écrire vite.
Parce que souvent dans les histoires transforment les personnages au fur et à mesure, hein, ils ne sont plus à la page 500 ce qu'ils étaient à la page 1. Est-ce que ça vous imaginez les changements de caractère dès le début? Comment ça se passe? Est-ce que vous savez exactement où est-ce qu'ils vont être en termes de personnalité à la fin?
Moi, c'est vrai que comme dans la partie recherche et structure de l'histoire au départ, je vais avoir l'idée générale du monde ou de comment ça fonctionne, de ce que j'ai envie de dire dans ce roman-là, les émotions. Et là, je vais me poser la question de savoir qui est le personnage qui souffre le plus ou qui est le personnage qui évolue le plus. Souvent, c'est le même. Et c'est lui, le personnage principal, en fait. Si j'essaye de mettre un autre personnage principal que celui qui souffre le plus, en général, à la relecture, je me rends compte que non, c'est pas le bon... Voilà, ça fonctionne pas, il faut modifier. J'ai fait une histoire... Dans les élémentaires, une des premières versions, on suivait vraiment les différents points de vue des différents personnages. Il y a 5 personnages, on va dire, qu'on va suivre. Et on suivait les 5 points de vue, comme ça... Et en me disant, voilà, comme ça, on a des éléments sur chacun, j'avais creusé vraiment les personnages chacun. Et en fait, je me suis dit non, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui souffle le plus, et c'est elle qui va être mise en avant, c'est le personnage principal de cette histoire. Les autres vont du coup être un peu plus secondaires, même s'ils sont importants dans l'histoire, mais pour que ça marche, il fallait voilà, trouver le personnage qui souffre le plus ou qui évolue le plus.
Rappelle-moi la question.
Sur l'évolution du personnage, comment est-ce que cette évolution se construit? Est-ce que c'est prévu dès le départ?
Alors moi, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement vu que je l'ai travaillé beaucoup en amont avant l'écriture. Après, en roman en tout cas, la thématique de mes deux romans la narration de mes deux romans étant de suivre le cheminement intérieur d'un personnage unique à chaque fois, ça fait partie de la thématique, donc ça se fait assez naturellement. Les deux romans sont sur l'évolution d'un personnage particulier. Mais sinon, moi, j'aime aussi bien. J'ai peut-être plus de surprises avec les personnages secondaires dans ce cas-là, parce que je les travaille aussi beaucoup, mais c'est un peu frustrant parce que je les mets moins directement en scène, et du coup, je vais avoir peut-être plus de surprises sur leurs évolutions, parce que je les avais pas forcément prévues dans la structure en détail dans la structure de mon récit, donc leurs réactions vont peut-être plus me surprendre que celle du personnage principal, vu que mes deux romans sont à un seul point de vue. Donc,
Patrick.
Oui, bah là en fait on parle de personnages et de scénario quoi finalement. Et évidemment le scénario évolue en cours d'écriture pour la simple raison que de nouvelles idées jaillissent quoi. Au départ, enfin moi personnellement j'établis toujours ce qu'on appelle un conducteur, un fil conducteur, une sorte de synopsis très 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 succinct sur les différents chapitres d'un ouvrage. Mais je sais que à chaque fois, je vais pas respecter ce ce conducteur, parce que au bout d'un mois, évidemment, il y aura tout un tas. On parlait de personnages mineurs. Par exemple, sur l'ouvrage que je suis en train d'écrire actuellement, qui sortira en octobre prochain, il y a un personnage auquel je ne destinais aucun rôle particulier, qui apparaît dès le chapitre 1, et finalement il prend une importance considérable dans le récit, jusqu'à faire partie des protagonistes du coup de théâtre final, quoi. Donc oui, ils évoluent toujours grandement, et bon, voilà, c'est bien, c'est super sympa, parce que en même temps, comme ça, on échappe complètement à la routine. Ça serait un peu ennuyeux, finalement, si voilà, on commence à écrire, ça pourrait s'apparenter presque à un travail de bureau au bout d'un moment. Quoique, bon, après, un travail de bureau, c'est pas non plus obligatoirement ennuyeux, quoi. Mais quand on exerce le métier d'écrivain, c'est aussi pour être surpris. Donc voilà, c'est sympa de se surprendre soi-même et de se faire confiance. Voilà. Moi, je me fais toujours confiance, je me dis que ça va aller. Et puis si ça va pas, ben alors là, je pleure et puis je bois pour oublier.
Hélène ? Les caractères, personnages que je trouve sympas, évidemment, ce sont des gens qui n'aiment pas la change et qui ne veulent pas changer. C'est toujours, je pense à ça dans mes livres, et ils résistent, et c'est à moi de le faire délicat. Il faut le faire délicat. Alors, c'est pour ça que c'est toujours la société qui les pousse à changer. Alors, pour moi, je crois que, enfin, tous mes romans, peut-être pas Thomas, mais un peu, oui, c'est avoir les relations entre l'homme et la femme et la société, et c'est ça, c'est pour ça qu'il change. Alors il faut, on peut aussi explorer le milieu où il se trouve.
Et est-ce que c'est simple de faire souffrir un personnage, parce que là vous me semblez tous un petit peu en empathie, hein, avec vos personnages qui vous parlent, qui évoluent, qui vous surprennent. Est-ce que c'est facile de les faire souffrir, de les faire mourir, d'y aller un peu, quoi ?
Alors non, c'est douloureux. Ceci étant, j'essaie que ça ait un sens. J'aime pas trop, enfin, je trouve qu'on est un peu dans une mode de la narration super émotionnelle avec du gros cliffhanger dans ta face et puis du gros twist et puis un personnage qui avait résisté à tout et tout d'un coup on va le buter et tu vas pleurer. C'est vrai que, enfin bon, il y a des œuvres qui font ça, qui sont très bien, mais c'est vrai que moi j'ai un peu une résistance à ça. Je trouve que c'est un peu une manipulation émotionnelle du lecteur. Et donc, moi je sais, enfin, j'écris pas forcément, même s'il y a de l'humour dans mes livres, j'écris pas forcément des choses très gaies, mais quand il y a des choses vraiment dramatiques, j'essaie vraiment que ça ait un sens. J'essaie que ce soit pas gratuit, j'essaie que ça apporte quelque chose au personnage, à l'histoire, et ça fait partie aussi du réalisme. Et j'essaie de traiter ces choses-là de manière aussi réaliste, pas être complètement dans la tragédie classique, disons, mais avoir, par exemple, moi j'aime beaucoup introduire de l'humour dans le drame, mais cette espèce d'humour un peu ridicule et absurde qui peut arriver quand les situations sont catastrophiques et que sont tellement catastrophiques que ça en devient presque absurdement comique, et en même temps c'est comme c'est comique, c'est encore pire parce qu'on n'a pas envie de rigoler. J'aime bien introduire des espèces d'éléments narratifs assez réalistes comme ça. Je pense que ça favorise l'empathie et tout en évitant la manipulation émotionnelle, en évitant de faire des choses assez gratuites.
Nadia,
moi c'est vrai qu'autant c'est facile techniquement, de faire souffrir un personnage ou de le faire mourir. Émotionnellement, quand on est très attaché à son personnage, on pleure en écrivant sa mort, par exemple. On pleure en corrigeant sa mort. Ouais. On pleure en relisant sa mort au bon attiré. Donc oui, on est touché forcément. Mais de la même manière qu'un lecteur, en tant que lectrice, je suis touchée en lisant la mort de mes personnages préférés dans des romans. Si on arrive à se détacher suffisamment de ça, ça va. Après, faire souffrir un quelqu'un d'affreux, c'est assez jubilatoire et c'est pas difficile à faire.
Mais pour toi, je pensais plutôt à Papa de papier.
Oui.
Ou là, pour le coup.
Alors, Papa de papier, c'est pas évident. C'est un livre qui parle de maltraitance, maltraitance verbale, maltraitance physique du papa sur la maman, mon héros, et cette impuissance de ce gamin de 10 ans qui voit ça et qui ne peut rien faire. Et c'est vrai que cette souffrance-là, c'est une souffrance plus psychologique. Et là, je pense qu'on met beaucoup de soi forcément dans les personnages. Je n'ai pas vécu des situations comme ça personnellement, mais je me mets à la place de mon héros et j'essaye de savoir ce que je ressentirais à sa place. Je n'ai pas envie de le faire souffrir à tout prix, mais en même temps, s'il ne souffre pas, il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, pour la petite info, c'est un personnage qui dessine très bien. Il dessine tellement bien qu'il a l'impression que ses dessins deviennent réels et il va essayer de se dessiner un sauveur. À ce moment-là, il a un nouveau voisin et toute la question du bouquin est de savoir si c'est lui qui a dessiné son voisin ou pas, ou comment on se raccroche à l'imaginaire pour survivre, en fait. Voilà, et c'était plutôt ce propos-là que j'avais envie, c'était amener un peu d'espoir, amener aussi peut-être des clés pour des gamins qui vivent la même chose, en se disant, peut-être se retrouver dans un livre en disant, oui, à la maison, mon père me parle pas bien, il emploie des mots très durs, ma mère, ou voilà, ou à l'école, et je suis pas bien, trouver un livre où un héros peuvent ressentir la même chose que moi et peut-être, voilà, comment est-ce qu'il s'en sort ? Est-ce que ça peut m'aider, moi, à m'en sortir ? C'est pas... Je l'ai vraiment pas pensé comme une personne réelle que je faisais souffrir, moi, vraiment, puisque je sais qu'il est en papier. Mais j'ai rencontré, dans différentes rencontres scolaires, je parlais un peu de cette histoire qui était en construction et il y a un gamin dans les rencontres qui m'a dit, moi, mon rêve, c'est d'avoir mon prénom dans un livre. Et il y avait une espèce de souffrance derrière cette demande-là. Et j'étais en train de travailler sur Papa de papier, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, comment tu t'appelles ? Ayrton. Ayrton, ouais, c'est pas facile à placer, forcément. Et puis, la rencontre se termine, je discute avec les enseignants et ils me disent, mais et elle m'explique à demi-mot que c'est ce qu'il vit à la maison. Voilà, qu'il y a des situations de maltraitance, ils ne peuvent pas trop agir au niveau de l'école. Et je me suis dit, bon, tu veux ton prénom dans un livre, tu vas avoir ton prénom dans un livre. Mais ce n'est pas toi, c'est pas lui que je fais souffrir. Ce n'est pas la même chose de s'inspirer de quelqu'un de réel ou de mettre de soi, parce qu'on met forcément de soi, inconsciemment ou pas. Mais ce n'est pas la même chose que de faire souffrir vraiment un personnage. J'ai parlé beaucoup.
Patrick, et puis après Hélène.
Ok, alors tu as un personnage, ça, en fait ça peut être très facile ou douloureux, ça tout dépend du personnage, effectivement, de l'empathie qu'on éprouve envers lui ou de la façon dont on s'est attaché à lui. Dans Comtesse Bathory que tu citais tout à l'heure, je me souviens avoir pris beaucoup, vraiment beaucoup de plaisir à tuer un abominable tortionnaire, un psychopathe, et puis lentement en plus, hein, le mec il a sans passer, hein. c'est long, il se fait... Il se fait brûler les pieds d'abord, petit à petit, après la face, tout. Enfin, voilà. Et j'avais vraiment exulté. Hein. J'avais adoré ça, vraiment. Du coup, ça me ramenait, sur le plan psychanalytique, ça me renvoyait un petit peu, finalement, à lui, quoi. Puisque moi-même, je devenais un abominable tortionnaire. Mais j'avais raison. Dans ce cas-là, j'avais raison. Contrairement à lui. Et à l'opposé, dans Les Hauts Compteurs, non pas Les Hauts Compteurs Origines, le préquel de la série, mais dans la précédente saga des Hauts Compteurs, j'ai éprouvé beaucoup de peine en tuant un personnage secondaire, mais néanmoins important, auquel je m'étais beaucoup attaché. Mais voilà, c'était nécessaire pour des raisons scénaristiques. Alors, et là, j'ai eu vraiment. Je me souviens qu'au moment où je tapais la séquence de sa mort sur son clavier, je me suis un peu excusé même. Je crois qu'il ne m'a pas entendu, il était déjà mort. Il était en train de mourir, quoi.
Hélène ?
Alors, pour des écrivains, comme pour des comédiennes, la morte, elle est superbe. Et pour... voyons, quand on est comédienne, on veut jouer la morte la place... Et pour les écrivains, on sait une grande mort d'un personnage important, c'est super, c'est délicieux. Et la souffrance de aussi. Et on pleut, bien sûr, on pleut quand on écrit, si c'est bon, si c'est bien fait, n'est-ce pas ? Mais quand même, la pensée de faire souffrir les lecteurs aussi, c'est... Joli. Mais comme quelque chose qu'on fait, on met dans la soupe des herbes, des saisons, il ne faut pas mettre trop et pas trop souvent. Mais quand ça marche très bien. Alors, on pense, qu'est-ce qu'on va faire et qui ? Et J'ai écrit ça, c'est malheureusement la troisième des livres dans la série de À la pointe de l'épée. Et c'est, je l'ai écrit avec Delia, mon épouse, qui est aussi ici, à la conférence dans une heure. Et on a travaillé très très bien tous les deux ensemble, mais quand c'était la question de qui va mourir, il y a deux héros, anti-héros, et il fallut absolument, évidemment, tuer un. Et elle voulait un, et moi je voulais l'autre, et moi, plus que ça, je voulais le faire souffrir avec de la déshonneur. Et Delia, elle devenait pâle, et disait, mais ça, c'est vraiment pire que la mort. Il ne le voulait pas faire, car c'était plus cruel que la mort. Donc, on ne faisait pas. Bon, je suis déçue. Même aujourd'hui, je suis déçue, ça serait parfait. Et plus bien que la morte. Ah, alors.
Nadia.
C'est Joss Whedon, je crois, qui dit « Pourquoi tuer un personnage quand on peut le faire souffrir ?»
Ouais. Mais lui, il les fait tous ressusciter, les personnages qui butent. Donc...
Il faut dire aussi qu'il résiste, surtout les miennes qui sont un peu froides. Il ne veut pas avoir des émotions grandes sur la page. Alors je suis comme une torturer, quel est le mot ?
Torsionnaire.
Ok, un peu de plus. Tu cries maintenant, mon vieux.
Voilà, une conférence fine et délicate.
Mais
donc.
C'est vrai que c'est le plaisir de l'écrivain de faire absolument tout ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Je veux dire, tuer des bébés à la hache. Voilà, typiquement. Je l'ai fait. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit c'est terrible. Et oui, je ne ferai pas ça dans la vraie vie, bien sûr, ce n'est pas dans ma nature profonde et tout va bien. Mais du coup, voilà, on peut se permettre vraiment beaucoup de choses quand on est dans le point de vue de son personnage. Je parlais tout à l'heure des monstres, etc. Moi, quand j'ai écrit le premier, qui est un roman sur le premier vampire à la fin du néolithique, hein, on n'est pas dans un vampire romantique 19e siècle très chic et qui plaît aux filles, hein, on est plutôt sur... C'est un petit peu plus animal. Et du coup, je me suis mis dans le point de vue du psychopathe, quoi. Et qui, pour lui, tout est normal. Pour lui, il a raison de faire ça. Et du coup, c'était vraiment très contraire à ma nature profonde. Et ça a été très difficile de rester dans le point de vue de ce personnage. Ça avait des influences sur moi. J'étais obligée de faire des pauses de temps en temps pour éviter de tuer mes gamins. Enfin, voilà, il y a un moment, fallait éviter que ça déteigne trop. On peut être très imprégné par son histoire et ses personnages. Et il faut garder cette distanciation.
Et justement, comment on fait pour incarner des personnages qui ne sont pas soi, qui du coup ont des comportements différents ? Est-ce que c'est difficile ? C'est ce que tu disais à l'instant.
Moi, comme je disais, j'ai tendance à les travailler beaucoup en amont, mais moi, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement dans le roman, c'est justement pouvoir se mettre dans la peau de personnes qui ont une autre logique et qui vont avoir leur propre logique. Alors. Je sais pas trop. Ça se fait assez naturellement en fait, parce que je pense qu'à partir du moment où on les a bien construits avant, où on sait comment ils résonnent, tu donnais l'exemple d'un psychopathe, c'est assez intéressant parce que je crois que c'est Lee Strasberg qui disait ça, le fondateur de l'Actor Studio de New York, qui disait que l'important pour incarner un fou, c'est de comprendre que le fou ne sait pas qu'il est fou. Le fou, il suit sa logique. Et il n'y a absolument rien d'absurde dans ce qu'il fait. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à saisir ça, alors pas forcément sur des fous, mais n'importe quel, je pense que c'est la clé de saisir n'importe quelle personne qui va raisonner de manière différente. Après, quand c'est des différences de culture, des différences de vécu, il en va être plus dans le travail de recherche pure où aller interroger les personnes concernées. Mais quand c'est vraiment une question de mentalité différente, je pense qu'il faut trouver la clé de la logique de la personne. Et à partir du moment où on l'a trouvé, enfin, en tout cas dans mon cas, ça se fait assez naturellement parce qu'on reste dans cette logique, on incarne cette logique. Après, je pense qu'il faut aussi que cette logique, résonne avec quelque chose, des questions qu'on se pose nous-mêmes, même si c'est pas nous notre manière de raisonner. Faut que, par exemple, ça peut être des personnages qui, une question bête qu'on se pose, eux, ils vont l'incarner de manière, je trouve pas mes mots, de manière transcendante, voilà. Mais donc, faut que ça résonne, voilà, avec quelque chose de nous, peut-être, en tout cas de nos questions. Mais voilà, il faut la clé de la logique. Bon, ça fait trois fois que je dis ça, je pense que tout le monde a compris.
Hélène.
I'm going to need you, so. I was going to say that All of the characters come from inside me, even the bad ones, that they are ambitious and thoughtless and cruel, but...
Donc elle dit, tous ces personnages, y compris les méchants, y compris ceux qui sont vraiment cruels, qui sont vraiment... Ils viennent d'elle. C'est elle qui les sort d'elle, qui les crée.
C'est-à-dire que il faut que je trouve en moi ces choses que je n'aime pas beaucoup en moi-même, mais ils sont là quand même. Je les pousse, mais ça existe et on prend un tout petit sous-son dans chaque caractère. Mais oh, okay. Oh wait, that was incorrect. Right. Okay, never mind. Okay, but I discovered that I believe very strongly that you must love all your characters as the creator, that is part of what gives them the breath of life and makes them real.
Donc la façon de faire des personnages vraiment réels et de qualité, c'est que vous devez les aimer tous, même les méchants, même les psychopathes, même ceux qui sont cruels, vous les avez créés, il faut les aimer.
And it's easy to love the ones that have a little piece of you inside them.
C'est plus facile de les aimer quand vous les avez écrits avec un petit morceau de vous-même.
But I came up against a great difficulty when I was writing about superficial and unkind women and girls.
Un jour, elle a écrit des personnages, c'était des femmes méchantes et superficielles. Et là, elle a eu du mal parce que
because they were the ones I always saw as the other and as my enemies.
Parce que c'est des personnages qui représentaient les gens qu'elle a toujours considérés comme extérieurs et comme ses ennemis.
And so I had to go on an almost moral and spiritual journey, if that isn't too highfalutin.
Donc il a fallu qu'elle fasse une quête spirituelle et philosophique.
To discover what made these people human and how I could, as their creator, give them the same humanity that I was giving all my other characters.
Pour essayer de trouver, ok, ces personnes et ces personnages, ils sont quand même humains, il faut qu'elles trouvent une façon de leur donner une humanité.
And it was difficult. Some of it was done by thinking about people that I knew. And if you cannot have a deep spiritual connection, you can at least give them the behavior of somebody who is not you.
Donc elle s'est inspirée de gens qu'elle connaît dans la vraie vie pour faire ces personnages. Et...
give them behavior. So, oui. Give them just the little behavioral. Mm-hmm.
Donc quand c'est pas une partie de vous-même de votre psyché, c'est quand même ce qui est difficile. La facilité qu'elle a eue dans cette difficulté, c'était de leur donner les comportements.
But to love and have sympathy with someone that one considers an enemy it was a challenge. But I think every time I meet that challenge, I create a better book.
Elle dit que ça lui arrive plusieurs fois d'encontrer cette difficulté, d'aimer ces personnages-là. Mais à chaque fois que ça lui arrive, c'est un obstacle à franchir. mais c'est important et c'est une façon aussi de... Ça l'aide pour ceux d'après.
Patrick ?
Merci. Alors, pour moi, parvenir à incarner des personnages dont a priori on se sentirait fort éloigné, ça devient possible à partir du moment où on prend conscience du fait qu'ils estiment, quoi qu'il en soit, agir de manière juste. Même s'ils sont, selon nos critères, des pourris finis, eux, de toute façon, ils pensent qu'ils ont raison, ils pensent agir justement, comme dans la vraie vie. Hein. Vous prenez n'importe quel conflit... les bons, les méchants, tout est très relatif. Hein. Tout dépend de quel côté on se place. Chacun dans une guerre pense qu'il a raison d'aller buter les voisins, quoi. Voilà. Donc à partir du moment où on prend conscience de ce fait, ça devient beaucoup plus facile de les incarner pour ce qui est des méchants, disons, puisque a priori on pense tous être sympas. C'est très facile de se projeter, de s'identifier au personnage gentil d'une fiction. Aux méchants, c'est plus dur. Mais on y arrive assez facilement. Pour les psychopathes, moi, je trouve que c'est beaucoup plus éprouvant, en revanche. Parce que là, il faut essayer d'adopter leur logique pervertie de considérer l'autre. Et c'est quand même assez difficile. Ça nous renvoie, encore une fois, à nos propres démons, à ce qu'on a en nous de plus sombre, de plus noir. de cet embryon de démence qu'on porte tous. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai tué quelqu'un, j'en ai beaucoup souffert. Mais ensuite, ça m'a beaucoup servi ensuite pour écrire. Personne rigole, c'est une vanne pourrie. Excusez-moi. Il faut bien qu'il y en ait aussi de temps en temps.
C'est-à-dire qu'on pensait que tu parlais de personnages, donc.
Non. Mais non, je parlais de moi-même. Mais c'était trop subtil. C'est une vanne pourrie et en même temps subtile. Bon, voilà.
Je trouvais ça drôle, hein. Merci.
Du coup, j'ai eu un doute. Je voulais juste qu'on aborde les personnages historiques. Pour le coup, donc peut-être une question un peu plus pour toi, mais pas forcément. Est-ce que c'est plus difficile d'incarner un personnage historique ou dans un contexte historique très précis que lorsqu'on fait un monde de fantasy où c'est un petit peu plus lâche en termes de cadre ?
Moi, j'aime bien, une des raisons pour lesquelles j'écris beaucoup dans des mondes d'imaginaire, c'est justement pour la latitude que ça donne. Déjà, la latitude de création et aussi pour le recul que ça permet d'avoir sur les situations. Donc, je cite toujours un bouquin de Guy Gavriel Kay qui s'appelle Elon Dalrassan et qui parle des conflits entre juifs, chrétiens et musulmans au temps où l'Espagne, alors à chaque fois je le dis dans le mauvais sens, l'Espagne musulmane redevient catholique. Et en fait, ça se passe dans un monde de fantasy. Et on a beau voir la stratégie, parce qu'elle est évidente, et même jusque dans les néologismes, on retrouve notre vraie histoire, sur un sujet qui est aussi brûlant et qui résonne encore avec notre actualité, le simple fait, même si on sait ce qu'il est en train de faire, le simple fait d'être dans un monde de fantasy permet d'induire un certain recul, que je trouve un peu plus... Alors, j'ai pas écrit énormément d'historique, et ça a été que en bande dessinée, donc je trouve ça particulièrement intéressant dans la fantasy, cette latitude et cette stratégie entre guillemets narrative qui permet d'induire ce recul pour poser des questions aux gens et les permettre de peut-être remettre en question quelques a priori. Après, moi, quand je travaille sur des personnages historiques en fiction, ce que j'aime, c'est essayer de relier une thématique à un personnage et travailler plus sur cette thématique que sur la bio du personnage. Moi, si je veux savoir la bio d'un personnage historique, je vais lire un essai. J'en saurai plus que dans une fiction. Et ce que j'aime dans la fiction, c'est tout le propos qui va être attaché. Alors, c'est pas pour ça que j'aime qu'on fasse n'importe quoi, parce que j'ai horreur de refermer un bouquin en sachant pas si les trucs étaient vrais ou étaient imaginés. Donc, j'aime bien dans ce cas-là quand les auteurs précisent. Mais moi, ce qui m'intéresse sur les personnages historiques, voilà, c'est plutôt les questions qui vont amener.
Patrick, alors pareil sur, on reparle de la comtesse Bathory, personnage historique. Est-ce que c'était plus simple, moins simple? Comment t'as fait?
Moi, c'est exactement l'inverse. Je préfère travailler sur la fantasy historique. Alors bon, après, je m'intéresse depuis très très longtemps à l'histoire dans le sens élargi du terme. Et je trouve que c'est beau, en ce qui me concerne, bien sûr, c'est beaucoup plus réjouissant de faire évoluer mes personnages dans un cadre réel, en général dans le passé, hein, bien sûr. Pour ce qui est de Comtesse Bathory, c'était une période que je ne connais pas. En plus, voilà, ça nous permet de prendre connaissance de faits et de périodes qu'on connaissait assez mal. C'était le cas, moi, pour Comtesse Bathory. Mais je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Un peu d'aide serait la bienvenue, Jérôme, s'il te plaît.
Non, mais simplement, quand on a un personnage historique comme ça, la question est toujours de savoir quelle personnalité on lui donne en fonction des éléments historiques. Qu'est-ce qu'on trahit ou qu'est-ce qu'au contraire on interprète ?
Moi, j'aime interpréter l'histoire réelle. Qu'on opposait à l'histoire officielle, ça c'est le sujet de mon dernier ouvrage résolument adulte qui s'appelle Mérovingien, donc qui est sorti il y a quelques mois, où je raconte finalement les dessous de l'apogée de Clovis, quoi. Clovis, dans mon scénario, en fait, ce sont trois agents secrets qui ont œuvré dans l'ombre pendant 15 ans pour que Clovis devienne le roi qu'on connaît tous, qui a impliqué évidemment tout un tas de vilaines actions, compromissions, manipulations, chantage, meurtres, extorsions et autres. Et dans la fantaisie pure, je trouverais, bien sûr, on peut faire la même chose, mais pour moi, si tu veux, ça existe déjà. Ça existe déjà dans l'histoire réelle. Donc, je vois pas, encore une fois, personnellement, je trouve pas vraiment d'intérêt d'aller calquer, d'aller transposer dans le royaume des dragons sorciers, des trois lunes, tout un tas d'éléments qui existent déjà dans notre réalité, dans le passé, et avec lesquels je m'amuse, quoi. Parce qu'il y a quand même aussi, sur le plan historique, des personnages très intéressants. Comtesse Báthory, c'est la première céréale killeuse identifiée de l'histoire, quoi. Elle a, même si elle a vraisemblablement assassiné beaucoup moins de gens que ceux dont on l'a accusé à l'époque, elle a quand même buté. Normalement, les historiens les plus cléments s'accordent à reconnaître aujourd'hui qu'elle en a tué 200 au lieu des 600 ou 700 dont on l'accusait. On l'a accusée pour diverses raisons. Déjà parce qu'elle était très riche, donc ça suscitait des convoitises. Elle était veuve, non remariée, elle gérait son domaine d'une main de fer, donc ça a énervé tous les mâles alentours qui se disaient, mais attends, c'est une nana, tout. Voilà. Et en plus, elle était, alors selon le point de vue ou nationaliste ou patriote, elle souhaitait affranchir son royaume de la tutelle Habsbourg. Donc ça faisait quand même beaucoup d'éléments qui ont provoqué sa chute, parce qu'en réalité, c'est pas tellement les 200 malheureuses qu'elle a butées, qui étaient des paysannes, des sans-titres, des sans-noms. Ça a servi de prétexte, quoi. Voilà.
Chacun ses hobbies.
Exactement.
Alors pour moi, il faut toujours savoir que quand on fait même un roman historique, on est romancière moderne, contemporaine. Alors c'est impossible de recréer vraiment l'histoire. On peut bien. Mon épouse Delia va faire 10 minutes selon tout ça, et elle veut toujours vers la recherche et lire les choses que les gens ont pensées. Tout ça, c'est très important. Mais c'est un roman contemporain. Alors, il faut séduire les gens d'entrer dans le sens que vous avez de l'histoire même. Moi, quand j'écris Thomas le Rimeur, c'est en même temps fantasy et roman historique. Et on peut, avec ça, car c'est très très loin, c'est l'époque un peu de la mythe, créer une petite place de rêve. Mais en même temps, être fidèle au temps. Puis, et pour faire ça, encore une fois, il faut choisir des détails qui sont réels et crédibles, et en même temps un peu étranges. Et je vais cesser de parler.
Oui, ça, de toute façon, sur l'imaginaire, c'est la grande différence entre réel et réaliste. Moi, quand je vais placer un roman à la fin du néolithique, je vais faire des recherches pour pas dire n'importe quoi, mais je vais en faire aussi si je crée un monde de fantasy, pour pas dire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on imagine tout qu'on peut tout faire. Au niveau historique, moi, je suis un petit peu... Enfin, j'en fais pas du tout, hormis peut-être donc un roman qui se passe au néolithique, mais qui est quand même très fictionnel. Des romans qui se passent dans le futur, qui nous parlent de nous maintenant, ou enfin, voilà, dans l'Empire des Auras, c'est un peu Rosa Parks dans l'univers de Minority Report, quoi. Donc, enfin, si on voulait résumer très très fort, donc voilà, ça parle forcément de faits historiques, mais autrement. À part peut-être Ascenseur pour le futur, on a du voyage dans le temps entre les années 90 et maintenant. Donc, j'ai fait des recherches sur les années 90 dont j'avais de bons souvenirs, et parce que je me suis dit, finalement, en évoluant, si ce roman est lu en 2020, en 2050, ça sera presque un témoignage historique sur les années 90 et comment nous, à cette époque-là, on voyait le futur et comment on emmène un enfant des années 90 pour voir ce qu'est devenu le futur avec l'an 2000 où il n'y a pas de voiture qui vole.
Excuse-moi, je voulais juste préciser, apporter une petite précision là, par rapport à ta précédente question. Mais en fait, ce qui m'éclate le plus dans la fantasy historique, c'est que justement, on peut adjoindre l'élément fantastique, on peut faire surgir l'élément fantastique dans un contexte historique. Du coup, la fantasy, elle devient réelle. Et moi, j'aime vraiment à imaginer que nous côtoyons un monde invisible, quoi. Tous les jours, voilà, l'invisible peut être là, et j'aurais davantage de mal dans de la fantaisie pure, quoi.
One thing that happens now a great deal is that, is that people set fantasy in a past period, but they want to make it a past period that is somehow sociologically evolved to the point where everyone is enlightened the way that we are now. This certainly happens a lot in America, where nobody is racist and nobody is sexist, and everybody can get out there and display their true potential. But
Elle parle d'écrivains de fantasy qui utilisent un univers fantastique, mais en se rattachant donc le réel réaliste, c'est vrai que des fois je ne fais pas la distinction en français, à une période réelle historique, mais dans laquelle les gens sont libéraux et évolués mentalement et sociologiquement comme nous on l'est aujourd'hui. Donc il parle de siècles passés, de sociétés passées, mais personne n'est raciste, il n'y a pas de discrimination, tout le monde est cultivé, etc.
But and there is a virtue in these books, and if that is the book that you want to write, wonderful. But I find I'm still exploring issues of sexism and racism and even homophobia in my novels. And people sometimes complain that my women don't have enough power, but I find that people respond very well to them because these problems are still, in fact, with us.
Donc elle dit, elle fait pas ça. Elle aime quand elle s'inspire de périodes historiques réelles, elle parle de racisme, elle parle d'homophobie, elle parle de sexisme. Et elle dit que des fois on lui reproche que ses personnages féminins n'ont pas assez de pouvoir, mais c'est parce que elle explore justement ces questions d'homophobie, de sexisme, et dans cette période avec ce manque de recul du coup des gens à l'époque. C'était pas très clair. Ça va?
Okay. Merci beaucoup.
Tu voulais ajouter quelque chose, Isabelle?
Oui, peut-être sur cet aspect pour traiter justement des sujets d'homophobie, de racisme, de sexisme, tout ça. Un truc que je trouve intéressant dans la fantaisie, c'est justement, bon, moi j'ai parlé pas mal de sexisme, voire plus en filigrane d'homophobie et de racisme dans mes livres, et en fait j'ai à deux stratégies. Soit on se place dans un monde, bon, parlons du sexisme, on se place dans un monde patriarcal, et donc on va avoir des personnages qui vont lutter contre ça. Mais ce qui peut être intéressant en fantasy ou en SF, si on va parler du futur, c'est aussi d'imaginer un monde où ces discriminations n'existent pas. Donc évidemment, il y en a avoir d'autres, l'humain étant l'humain, mais un monde où c'est, par exemple, sans sexisme, et montrer tout ce qui est possible. Parce que je crois que c'est Stendhal qui disait tout génie n'est femme est perdu pour l'humanité. Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Au-delà du fait de dire que c'est pas bien d'être sexiste, c'est pas bien d'être raciste, c'est pas bien d'être homophobe, de montrer que c'est bête aussi. Parce que où en serait l'humanité si tous ces gens qui avaient énormément de potentiel, d'intelligence, de créativité, si on ne les avait pas tués dans l'œuf? Où est-ce qu'on en serait scientifiquement? Où est-ce qu'on en serait politiquement? Et la fantasy est aussi très intéressante de ce point de vue-là.
Et si on veut que le lecteur devienne tout à coup un ami de vos personnages, s'il y a un personnage qui est un peu plus évolué, qui n'est pas raciste ou n'est pas... il devient tout un coup avec un liseur moderne sympathique.
Eh ben c'est quasiment un joli mot de la fin. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos invités sur les personnages? Une fois, deux fois, trois fois. Eh ben on va les libérer. Un grand merci à vous.
Merci à toi.
Merci à vous.